Vous écoutez Secret d'Histoire, Madame du Barry, coup de foudre à Versailles. Troisième partie.
On associe souvent le petit Trianon à Marie-Antoinette. C'est oublié un peu vite que c'est la comtesse du Barry qui en préside l'inauguration dès juin 1769, alors que les plans ont été conçus par sa devancière, Madame de Pompadour. Son frère, le marquis de Marigny, surintendant des bâtiments du roi, a confié le décor à une équipe de jeunes artistes. Dans la salle à manger, on peut admirer des œuvres de Lagrenet, Vien, Doyen et Allais, représentant la moisson, la chasse, la pêche et la vendange. Il faut le souligner, ce qu'on appelle le style Louis XVI existe en fait dès Louis XV, au temps de Madame du Barry. Le 27 avril 1774, Jeanne et le roi soupent ensemble au Petit Trianon. Louis XV apprécie la luxueuse simplicité de ce lieu. Il rêve d'y faire installer un système de tables volantes au moyen de poulies qui lui permettrait enfin de se passer de serviteur. Dans la nuit, le roi se sent fiévreux. Il est pris de malaise. On pense d'abord à un embarras gastrique. Mais devant la persistance des symptômes, le premier chirurgien déclare « Sire, c'est à Versailles qu'il faut être malade. Au château et à toute pompe !» répond le roi, pris de nausées. Jeanne du Barry ne le sait pas encore. C'est une nouvelle période qui s'annonce. Désormais, il va lui falloir apprendre à vivre sans l'amour et la protection de son royal amant.
Donc c'est un moment de grande tension à Versailles. On installe le roi sur un lit de camp dans sa chambre.
Jacques de Saint-Victor, historien.
Un laquais amène un chandelier et à la lueur des bougies, on diagnostique les premiers boutons de variole sur son visage. La variole noire, c'est-à-dire ce qu'on appelle là aussi la petite vérole à l'époque, qui est une maladie contagieuse.
Toute la médecine va défiler devant le roi, une saignée, deux saignées. Et on connaît la scène aussi merveilleuse des 30 médecins qui se succèdent, chacun en disant « Montrez-nous, tirez la langue, sire !» Et le roi tire la langue une fois, deux fois, 30 fois.
Michel de Decker, historien.
Et pendant 10 jours, le mal va augmenter sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour soulager le roi.
Pour tous, il devient évident que Louis XV vit ses dernières heures. Par crainte de la contagion, le dauphin et Marie-Antoinette sont exclus de la chambre du roi. Seule Jeanne assiste chaque soir au péril de sa vie, à l'agonie de son amant.
Madame du Barry le veillera, lui passant la main sur son visage qui commence à se couvrir de pustules rouges et noires qui sont caractéristiques de la forme la plus virulente de la petite vérole.
Jean-Christian Petit-Fils, historien.
Madame du Barry a un chagrin manifestement sincère en perdant Louis XV parce qu'elle l'a véritablement aimé.
Le 4 mai 1774, pourtant, la raison d'État prend le pas sur l'amour.
Il sait qu'il doit mourir en roi très chrétien, enfin le plus possible.
Raphaël Masson, conservateur au château de Versailles.
Et à ce moment-là, il ne va pas oublier que même Louis XIV avait renvoyé Madame de Maintenon quelques jours avant sa mort. Et il va renvoyer Madame du Barry à Rueil, c'est-à-dire chez le duc d'Aiguillon, pour ne plus jamais la revoir.
Le roi veut éviter à sa favorite l'humiliation d'être chassé de la cour après sa mort. Malgré son chagrin, c'est donc la tête haute que Jeanne quitte définitivement Versailles.
Mais quand même, quelques heures plus tard, il va la réclamer. Où est Madame du Barry? Où est-elle? Mais elle est partie. Mais où est-elle partie? Elle est à Rueil, sire. Ah, déjà. Donc voilà. Et quand, dans ce déjà, évidemment, il y a le sentiment que la mort approche.
La mort survient 6 jours plus tard. Loin de Jeanne, Louis XV s'éteint à 64 ans, l'après-midi du 10 mai 1774. Louis XVI et Marie-Antoinette montent sur le trône de France. L'une des premières décisions de leur règne est d'exiler la comtesse du Barry.
Marie-Antoinette voulait se débarrasser de cette créature, elle l'appelait comme ça, qui avait été un objet de scandale.
Elle a exilé de la cour tous les proches de la du Barry.
Tandis que le cercueil de Louis XV quitte Versailles pour Saint-Denis, Jeanne reçoit l'ordre d'entrer sans attendre au couvent de Pont aux Dames en Champagne et de n'y recevoir personne.
Madame du Barry va passer 11 mois à Pont aux Dames dans des circonstances assez pénibles parce qu'évidemment, passer de la vie la plus luxueuse à Versailles dans une abbaye, dans des conditions matérielles assez pénibles.
Evelyne Levert, historienne.
Madame du Barry souffrira beaucoup.
Les créanciers inquiets se pressent aux portes du couvent. Désormais privée de revenus, Jeanne se sépare d'un luxueux hôtel particulier qu'elle possède à Versailles et vend certaines de ses plus belles parures.
Madame du Barry fait pénitence par la force des choses à Pont aux Dames. Comme c'est une femme qui est pieuse et qui est bienveillante, elle se lie d'amitié avec les religieuses.
Cette femme qui était arrivée avec la réputation la plus sulfureuse dans ce couvent, eh bien, a montré qu'elle était très douce, très humble, très généreuse.
C'est vrai qu'elle n'attire que la sympathie, la petite du Barry.
Peu à peu, elle est autorisée à recevoir la visite de ses amis. Parmi eux, un ancien amant du temps où elle se faisait appeler Mademoiselle Lange, le prince Charles-Joseph de Ligne.
Il a eu ce mot... Madame du Barry est une femme bonne à voir, parce que c'est une belle femme.
Prince Michel de Ligne, descendant du prince de Ligne.
Il a rajouté bonne à avoir à un moment donné.
Dans son château de Belœil en Belgique, implanté dans la région du Hainaut depuis le 8e siècle, l'actuel prince de Ligne veille sur les souvenirs de cet aïeul, intime de Madame du Barry. Comme le mobilier Louis XVI de sa chambre, tendu de soie rose, ou sa bibliothèque privée. Militaire réputé, Charles-Joseph de Ligne est aussi, à l'égal de Voltaire, l'un des esprits les plus brillants de son temps.
S'il a particulièrement été apprécié par Madame du Barry, c'est pas tellement ses écrits, mais c'est beaucoup plus le côté de l'homme. L'homme sympathique, l'homme gai, l'homme amusant, l'homme qui est effectivement un séducteur, un grand séducteur.
Ému par la détention de son ami au couvent de Pont aux Dames, Charles-Joseph de Ligne s'érige alors en libérateur de Jeanne du Barry.
Il veut défendre sa cause, et il le fait. Et il le fait auprès de Marie-Antoinette, et il le fait même auprès de Louis XVI. « Voilà une belle ambassade dont vous vous êtes chargé, lui dit Louis XVI. » Et il lui répond « Sire, c'est parce que je suis le seul qui ose et qui aurait osé le faire et qui ose le faire. »
Louis XVI se laisse convaincre, mais interdit à Jeanne de vivre à moins de 50 km de Versailles. Elle achète alors le château de Saint-Vrain au sud de Paris et renonce temporairement à son cher Louveciennes, trop proche de la maison du roi.
Et immédiatement, comme elle souhaitait retrouver une vie festive, elle invite tous ses voisins et on sait que l'on rit, que l'on s'amuse, que l'on joue la comédie, que l'on danse dans cette propriété et dans le jardin également.
Jean-François Lagneau, architecte en chef des monuments historiques.
Et on sait que son fidèle cuisinier, c'était Louis Signot, qui l'a suivi dans tous ses heures et ses malheurs, lui a confectionné un jour ce qui allait devenir le fameux potage du Barry, c'est-à-dire une crème à base de chou-fleur.
Mais Jeanne se sent isolée. À Versailles, le comte de Maurepas, conseiller de Louis XVI, décide à son tour de plaider la cause de l'ancienne favorite, arguant de sa bonne conduite depuis la mort de Louis XV. En octobre 1776, Louis XVI accepte de rendre sa liberté à Jeanne du Barry et surtout Louveciennes.
Quand elle se retrouve à Louveciennes, Jeanne est une très jolie jeune femme, de 33 ans, peut-être un petit peu plus potelée, elle a pris un peu de gorge encore, mais ça lui va très bien.
Elle est libre et elle mène une vie de célibataire, ce qui est tout à fait extraordinaire pour l'époque. Dans sa maison de Louveciennes, qui lui appartient pour sa vie entière, on a remis tous ses meubles, tous ses tableaux, tout ce qui lui appartenait à Versailles. Elle a avec elle aussi tous ses bijoux et elle vit pour elle-même.
Quand elle revient à Louveciennes, elle souhaite vraiment refaire des jardins.
Jean-Claude Gonod, propriétaire du château de la Machine à Louveciennes.
Et à ce moment-là, et c'est ça qui est un peu surprenant, Elle vint finalement trouver Louis XVI plusieurs fois. Et Louis XVI finit par accepter de payer les travaux de restauration du jardin, mais pour lui permettre d'avoir un jardin buté à l'anglaise, puisque c'était le goût de l'époque.
Fini l'austérité des jardins à la française. Jeanne veut libérer la nature de son carcan géométrique. Le parc prend du relief, l'étang autrefois rectangulaire devient sauvage, et des folies voient le jour dans la verdure. Une inspiration que la comtesse du Barry puise dans la ville voisine de Chambourcy, où son ami François Racine de Monville vient de créer l'exubérant désert de Retz.
Bien, au XVIIIe siècle, le désert de Retz, c'est un endroit qui est en quelque sorte perdu au milieu de nulle part, c'est-à-dire à l'écart de la fureur du monde, vous le voyez. Eh bien, monsieur de Monville acquiert quelques 40 hectares pour y édifier tout à la fois des fabriques, mais aussi y faire importer quelques 4050 essences venant de tous les continents.
Pierre Morange, député maire de Chambourcy.
Afin de reproduire sur ce lieu, eh bien, une sorte de microcosme, de jardin d'Éden.
Particularité de ce jardin anglo-chinois, les 21 constructions appelées fabriques. Une tour de Babel frappée de l'éclair divin pour les soupers fins, un temple pour les concerts, une glacière pour les sorbets, ou encore un théâtre.
Nous sommes à la place en fait de la comtesse du Barry et nous assistons en fait à une pièce de théâtre avec un peu d'imagination où nous avons le mur de théâtre et sur la scène, sur le parti supérieur, le plateau horizontal, se déroulait justement le jeu des acteurs ou éventuellement des musiciens qui régalaient la comtesse du Barry au premier chef qui se réjouissait donc de ce type d'activité.
Alors, Madame du Barry, dans sa retraite de Louveciennes, reçoit un certain nombre de grands seigneurs français et étrangers qui viennent lui rendre hommage. On va la voir comme on verrait aujourd'hui une star en retraite.
Notamment le propre frère de Marie-Antoinette, Joseph II, qui de passage à Versailles passe à Louveciennes.
Et Joseph II a voulu lui donner le bras en lui disant « Madame, la beauté est toujours reine ». Évidemment, pour Madame du Barry, c'était un grand succès que de recevoir l'empereur et le frère de la reine qui l'avait détestée.
À la veille de la Révolution française, Madame du Barry incarne le souvenir du règne de Louis XV et elle a acquis une autre stature. Elle est devenue une femme respectable, avec tout ce que ça peut comporter de souvenirs agréables de vieux règne.
Avec la liberté et le succès, Jeanne retrouve aussi l'amour dans les bras de Louis-Hercule de Cossé, duc de Brissac, colonel des 100 Suisses du roi Louis XVI.
C'était son voisin à Versailles, qu'il aimait secrètement, mais qui évidemment n'osait pas le dire tant que le roi était encore en vie, qui s'est déclaré après la mort de Louis XV, et elle va connaître une existence paisible avec lui.
C'est un garçon d'une courtoisie raffinée, élégant, très bien élevé, et qui est mais follement amoureux d'elle. Et ça va être le début d'une très très belle et très grande histoire d'amour.
Toujours propriété de ses descendants, le château de Brissac en Anjou est considéré aujourd'hui comme le plus haut château de France. À l'intérieur, de nombreux souvenirs rappellent les grandes heures des amours du 8e duc de Brissac avec Jeanne du Barry.
L'ancienne sultane de Louis XV mène à Louveciennes une vie discrète. Depuis quelques années, les relations se sont apaisées avec la reine, qui lui voue même une certaine estime. Sa maison est un havre de paix, de luxe et de volupté. Jeanne reçoit dans ce jardin ses amis intimes, son cher duc de Brissac, gouverneur de Paris, monsieur de Calonne, ancien contrôleur des finances, qui tenta de réformer la fiscalité, ou encore monsieur Necker, le célèbre banquier genevois, qui passe pour l'un des esprits les plus éclairés de son temps. Elle n'est pas hostile au temps nouveau. Mais à propos de la convocation des États généraux, Jeanne aurait déclaré: si Louis XV avait vécu, tout cela n'aurait pas été ainsi. Fidèle à l'esprit du défunt roi, Jeanne est pour la réforme, la remise en cause des privilèges. Mais elle se méfie du saut dans l'inconnu auquel Louis XVI a dû se résoudre. La monarchie a perdu la maîtrise des événements. Désormais, tout peut arriver.
Je crois que quand arrive la Révolution, elle tombe des nues. Elle ne s'attendait pas, certainement pas du tout, à voir un tel bouleversement s'abattre sur le royaume de son cher Louis XV.
En revanche, après, elle va prendre, non pas ses distances, mais elle va essayer de pas s'en mêler et de suivre le courant, parce que c'est quelqu'un qui, finalement, n'a pas envie de se prononcer au pour ou contre.
Contre toute attente, Jeanne va pourtant prendre parti. Le 6 octobre 1789, lorsque la foule envahit Versailles pour ramener le roi, la reine et le dauphin à Paris, les gardes du corps sont massacrés. Deux d'entre eux parviennent à fuir et trouvent refuge à Louvciennes, où Jeanne se charge de les soigner. Touchée par la générosité de ce geste, Marie-Antoinette fait porter ses remerciements à son ancienne bête noire.
Petit à petit, le regard que Marie-Antoinette va porter à l'égard de Madame du Barry va changer. D'abord parce que Marie-Antoinette elle-même va être l'objet de nombreux pamphlets hostiles et elle va comprendre que peut-être toute la boue qui a été lancée contre la du Barry n'est peut-être pas aussi juste qu'elle ne le pensait au départ.
En janvier 1791, à Louvciennes, il va se passer quelque chose d'assez anodin au départ et qui finalement, par un enchaînement de circonstances, va peser très lourd dans le destin de Madame du Barry.
On a volé ses bijoux à Louvciennes pendant qu'elle était avec le duc de Brissac à Paris.
Des voleurs fracturent la fameuse commode de Carlin avec ses plaques de porcelaine pour arriver au tiroir. Et dans les tiroirs, qu'est-ce qu'il y a ? Une grande partie des bijoux de Madame du Barry. C'est un très gros coup dur pour elle.
Une centaine de gros diamants, 700 brillants et 300 grosses perles. Près d'1,5 million de livres au total, soit plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour les récupérer, Jeanne du Barry décide d'agir.
Elle a l'idée de lancer un avis promettant récompense, une récompense assez coquette, à celui qui les rapporterait.
Elle fait l'inventaire rapidement de tout ce qu'on lui a volé, mais elle va imprimer cet inventaire, elle va faire tirer des affiches qu'elle va mettre dans Louvciennes et les faire paraître dans les gazettes en disant « voilà, on m'a pris ça, 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 ça ».
Tout le monde sait d'où vient cette fortune, c'est-à-dire c'est quand elle a été maîtresse du roi. Et donc, on considère que cet argent est aussi un peu l'argent de l'État qui est passé dans ses caisses privées. Donc là, c'est une faute qu'elle fait parce qu'elle attire vraiment l'attention sur elle à un moment où elle ne devrait pas.
Un mois après le cambriolage, Jeanne apprend que ses bijoux ont été retrouvés et que l'un des voleurs est passé aux aveux, mais en Angleterre. Sans hésiter, elle se fait délivrer un passeport et traverse la Manche.
En Angleterre, elle reconnaît ses bijoux, certes, mais on ne peut pas extrader les voleurs. Donc ces voleurs sont tout d'abord en prison, ensuite ils seront relâchés parce que les tribunaux anglais ne peuvent pas juger d'une affaire qui s'est passée en France et ces bijoux, en attendant, sont mis sous séquestre.
Pourtant, Madame du Barry ne renonce pas et multiplie les séjours à Londres. Mais au printemps 1792, un drame la retient en France. Son amant, le duc de Brissac, est jeté en prison à Orléans.
Il sera accusé de comploter au sein de la garde constitutionnelle contre l'autorité de la République naissante, qui n'est pas encore évidemment une République.
Charles André, duc de Brissac, propriétaire du château de Brissac.
Mais on le soupçonne de comploter, ce qui est bien sûr absolument faux.
Madame du Barry est très émue et elle fait plusieurs voyages à Orléans et on voit bien que leur liaison reste une liaison extrêmement tendre.
Ils arrivent, c'est même tout à fait surprenant, à échanger quelques lettres et on sent très bien qu'il est beaucoup plus préoccupé par elle que par lui-même. Par contre, il va essayer de lui donner les conseils les plus avisés pour qu'elle échappe à une fin qu'il pressent.
Deux mois plus tard, le 10 août 1792, au cœur de Paris, les révolutionnaires décident de franchir un nouveau palier. Ils s'emparent du palais des Tuileries et conduisent la famille royale à la prison du Temple. Ancien commandant des gardes du roi, Brissac comprend alors que ses jours sont comptés. Alors qu'en septembre, une foule en furie massacre les prisonniers, l'Assemblée donne l'ordre de conduire les suspects d'Orléans jusqu'à Paris pour y être jugés.
Le convoi arrive à Versailles pour ensuite continuer sa route sur Paris. Il est brutalement stoppé. Et là, c'est l'émeute, on ne maîtrise plus rien. Les prisonniers sont littéralement massacrés à l'arme blanche.
Danton disait, il faut que le sang des aristocrates coule dans les ruisseaux de Paris comme l'eau de la pluie. Eh bien, le sang de Brissac va couler, on va lui couper les mains, on va lui couper les doigts, on va se distribuer les reliques. On en fait vraiment un cadavre déchiqueté.
On a dit que sa tête avait été jetée dans les jardins de la maison de Madame du Barry. On ne sait pas si cela tient de la légende ou de la réalité.
Par cette mort cruelle, Jeanne perd celui qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Seule et malgré sa peine, elle doit se rendre une dernière fois à Londres pour tenter à nouveau de récupérer ses bijoux.
Elle sous-estime complètement les dangers qu'elle court parce que dans la maison qu'elle occupe en Angleterre, elle reçoit toutes les migrations françaises. Elle est surveillée par un espion de la Convention qui note tous ses faits et gestes.
En 93, au moment de la mort du roi, elle commet l'imprudence d'assister en grand deuil à un service funèbre en mémoire de Louis XVI donné à l'ambassade d'Espagne. Et bien évidemment que ça, c'est noté et rapporté en France.
Pour ne pas se faire confisquer sa fortune et parce qu'elle s'estime dans son bon droit, Jeanne se garde bien pourtant de demeurer en Angleterre.
Et lorsqu'elle revient en France, eh bien, elle est considérée comme suspecte et elle sera incarcérée à la prison de Sainte-Pélagie.
On a cette sidération de Madame du Barry qui ne croit pas à ce qui lui arrive, que c'est un malentendu et que ça va s'arranger.
Jeanne est arrêtée le 21 septembre 1793. Surpris, les habitants de Louveciennes décident de lui venir en aide. Ce document émouvant est une pétition signée par 59 villageois pour attester de la générosité de la comtesse à leur égard. Tous la savent victime d'un complot, ourdi par un Anglais, un certain Georges Grève, qui s'est juré d'obtenir la tête de Madame du Barry.
Et Grève constitue autour de lui un groupe de patriotes qui comporte notamment Salnave, qui était l'ancien aide-cuisinier de Madame du Barry, et surtout Zamor, l'ancien protégé de Madame du Barry.
Grève lui dit, mais comment ? Mais ces monstres t'ont asservi, t'ont méprisé, se sont moqués de toi. Tu étais un jouet, tu n'étais rien.
Ève Ruggieri, romancière.
Deux jours avant son procès, le 4 décembre 1793, Jeanne est transférée à la prison de la Conciergerie, dans ce que l'on appelle alors l'antichambre de la mort. Légende ou ironie de l'histoire, Jeanne aurait été enfermée dans la cellule occupée quelques semaines plus tôt par la reine Marie-Antoinette, avant sa mort sur l'échafaud le 16 octobre 1793. Le 6 décembre, à 9h du matin, Madame du Barry comparaît à son tour devant le tribunal révolutionnaire.
Elle arrive au tribunal avec le sentiment que les choses se régleront d'elles-mêmes.
Madame du Barry reste terre à terre. Comme je n'ai rien fait, je vais démontrer mon innocence et je vais m'en sortir.
Peu à peu pourtant, Jeanne découvre que beaucoup veulent sa perte. En particulier, son cher Zamor.
Je pense qu'elle a été surprise du témoignage de Zamor parce qu'elle l'avait vraiment aimé. Je ne crois pas qu'il en ait vraiment eu l'envie, mais il a dû penser à sa tête. On a dû lui faire comprendre que s'il ne témoignait pas contre elle, il aurait le même sort.
Il prétend que Madame du Barry aurait organisé le propre vol de ses bijoux pour pouvoir aller à Londres et y rencontrer les immigrés et distribuer son argent aux principaux dignitaires de la contre-révolution.
Zamor va agir véritablement comme un traître. Le coup de poignard, c'est lui qui le donne.
Avec Zamor, un autre homme va contribuer à faire chuter la comtesse du Barry. Le fameux Fouquier Tinville, accusateur public réputé pour ses réquisitoires sans pitié.
Fouquier Tinville, l'accusateur du tribunal révolutionnaire, veut, comme il le dit lui-même, après la dernière reine de France, il veut avoir la Messaline de l'avant-dernier tyran de France.
Les minutes du jugement conservé aujourd'hui au musée Promenade de Marly, montre bien que ce procès est d'abord celui de Louis XV et de sa favorite.
Le tribunal révolutionnaire l'accable tous les maux.
Géraldine Chopin, conservatrice au musée Promenade de Marly.
Elle a un penchant naturel vers la débauche. Elle va vriller quelque part l'esprit du roi et le rendre faible. L'or va rouler à ses pieds. C'est vraiment ce vocabulaire que l'on retrouve dans cette description de Madame du Barry.
Le 7 décembre 1793, le verdict tombe. Convaincue de conspiration et d'avoir porté à Londres le deuil du tyran roi, la comtesse du Barry est condamnée à la peine capitale.
Elle ne s'attendait pas à être condamnée à mort. Elle est tellement surprise que la légende prétend qu'elle se serait évanouie.
Mais de retour dans sa cellule, alors qu'elle s'apprête à monter sur l'échafaud, l'espoir renaît.
Ses geôliers lui laissent entendre que si elle révèle les lieux où sont cachés ses bijoux, à Louvciennes, elle aura la vie sauve.
Pendant 3 heures, Jeanne indique avec précision les cachettes où elle a dissimulé ses derniers bijoux, dans les jardins de Louvciennes.
C'est-à-dire qu'elle a précisé que dans sa maison de Louvciennes, c'était entre la glacière et la maison du cocher. Et ça avait un sens, parce que quand on cache, quand on fait un trou, la terre est dérangée. Mais ici, on avait des chevaux qui sortaient tous les jours. Donc on avait un mélange de boue, de marques de chevaux en permanence. Donc comme excellente cachette, on pouvait difficilement faire mieux.
Tandis que l'on s'empresse de récupérer les bijoux, Jeanne s'attend à être libérée.
En réalité, elle n'a pas du tout la vie sauve. On l'emmène sur la charrette des condamnés.
Et là, c'est la surprise. Elle se demande, soit on s'est joué d'elle, mais peut-être est-ce une erreur. Et c'est ce qui va expliquer que durant tout le trajet, elle supplie, elle crie, elle implore.
Et elle se débat comme une folle en montant sur les marches de l'échafaud. Et on dit que lorsque les aides du bourreau se sont emparées d'elle, elle aurait dit « Encore un instant, monsieur le bourreau, encore un instant !» Et naturellement, on ne lui a pas laissé cet instant. Les aides du bourreau l'ont précipité sur la planche fatale qui a basculé et sa tête est tombée.
Et là, c'est ce qui va lui faire certainement peut-être le plus de tort au XIXe siècle. Et on va dire, voilà, elle n'a même pas su mourir.
C'est vrai que la pauvre Jeanne n'a pas eu cette allure qui était celle de la reine et qu'elle est morte en criant qu'elle voulait vivre.
On prête à la du Barry la responsabilité d'avoir définitivement taché la monarchie, mais au contraire, elle a été une femme qui a permis à Louis XV d'avoir une vieillesse heureuse et de gouverner plus intelligemment son royaume.
La vie de Madame du Barry, ça va bien au-delà d'une simple vie de courtisane ou de maîtresse royale. C'est une véritable tragédie humaine. C'est l'histoire d'une fille du peuple qui devient l'égale d'une reine et qui finit condamnée à mort par ce même peuple qui prétend qu'elle l'aurait trahi.
Pour parachever ce portrait, je voudrais citer le mot d'un des amis les plus fidèles de Jeanne du Barry, le grand architecte néoclassique Claude-Nicolas Ledoux. Honorer les femmes après la mort, c'est leur rendre ce qu'elles nous ont prêté pendant la vie. Les ériger en divinité, c'est rendre au soleil qui vivifie le monde un culte reconnaissant. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secrets d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras. avec la voix d'Isabelle Benadj.